Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi, comme tous les jours, de midi à 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Paul Lassen, journaliste RMC, Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect, Perico Legas, journaliste à Marianne.
Bonjour.
Et Yaël Mellul, ancienne avocate fondatrice de Femmes et Libres. Dans un instant, agression, cambriolage, vol non résolu. La police est-elle dépassée? Vous nous appelez au 3216 à 13h30. Ce sera le meilleur du jour sur RMC avec notre zapping. À 14h, près de 150 000 personnes ont changé de nom, de prénom depuis 2022. Est-ce que vous les comprenez? Et puis à 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
La dégringolade du jour, dégringolade des taux d'élucidation, de résolution des délits et des crimes en France. Les enquêtes de police et de gendarmerie n'aboutissent pas, ou en tout cas aboutissent moins. Paul, tous les voyants sont au rouge.
Oui Rémi, sur les 12 indicateurs de ce baromètre, 10 sont en baisse depuis 2017. C'est par exemple le cas des homicides. Entre 2017 donc et 2022, le taux d'élucidation est passé de 81 à 69%, soit une baisse de 12 points. C'est la même chose pour les affaires de coups et blessures. Le taux de résolution de ces agressions dans la rue, au travail ou à l'école est en chute de 9 points, passant de 63 à 54%. Malheureusement, les mauvais chiffres ne s'arrêtent pas là. Dans la résolution des affaires de violences sexuelles, là aussi, ça baisse. Seulement 56% des affaires sont élucidées. C'était 64% en 2017. Alors que dans le même temps, le nombre de ces faits, les violences sexuelles, le nombre d'affaires enregistrées a bondi de plus de 100%. Enfin, pour terminer ce mauvais bulletin de notes, la note du ministère de l'Intérieur révèle également que les taux de résolution des cambriolages et vols sans violence est lui aussi en baisse, passant d'un très faible 8% d'élucidation à un taux de 7% en 2022. Un chiffre d'autant plus inquiétant que ces infractions sont en baisse sur la même période.
Agression, cambriolage, vol non résolu. La police, la gendarmerie sont-elles dépassées? Vous nous appelez au 3216, je le disais tout à l'heure, hein, vous-même, si vous avez été victime d'un cambriolage, d'un vol de véhicule ou autre et que vous n'avez jamais eu de nouvelles, bah on attend votre témoignage et puis votre réaction. Yaël Mellul, ancienne avocate, est-ce que ces chiffres te surprennent? Est-ce que tu as le sentiment que nos forces de l'ordre sont dépassées aujourd'hui?
Alors, je n'ai pas le sentiment que nos forces de l'ordre sont dépassées. Je pense que nos forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie, font absolument ce qu'ils peuvent, hein, avec les moyens qu'ils ont.
Ouais, mais ça ne t'empêche pas, même quand tu fais ce que tu peux, d'être dépassé.
Mais, oui, absolument. Le problème qui se pose, c'est que, de mon point de vue, ce sont Darmanin et Dupond-Moretti qui sont complètement dépassés par les événements. Et moi, il y a deux chiffres qui m'ont particulièrement alertée. Ce sont, tu l'as rappelé, Paul, le premier, c'est le taux d'élucidation en baisse pour les violences sexuelles. Donc, on a perdu 8 points. Alors, c'est quand même problématique pour
un chef de l'État qui avait dit que
voilà, c'est quand même la grande cause deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est quand le réel il vient cogner, on est face à la réalité brute des chiffres. C'est-à-dire qu'au-delà des grands discours, du blabla qu'on nous bassine depuis 7 ans, en réalité, sur l'égalité femmes-hommes, on se rend compte aujourd'hui que c'est un fiasco qui est total. La deuxième problématique, le deuxième chiffre qui m'a beaucoup alerté sur cette note du ministère, c'est le taux d'élucidation des escroqueries à abus de confiance qui a chuté de 12 points, qui est absolument phénoménal, 12 points. Et pour moi, c'est un gros signal d'alerte sur les mauvais choix qui ont été faits par Darmanin, par ce gouvernement, sur la police judiciaire qui s'occupe des cas les plus complexes.
Expliquer qu'il y a une réforme de la police judiciaire.
Voilà, d'une volonté de dissolution de la police judiciaire. Et on voit tout de suite, on voit déjà que c'est un fiasco total, et en plus que c'est extrêmement dangereux. Parce que ça nous met dans une position où, les affaires ne peuvent pas être élucidées. Les affaires les plus complexes.
Non, mais en fait.
Juliette Briens.
Ouais, moi, je pense que ce n'est pas jeter l'opprobre sur la police que de dire qu'évidemment, il y a un débordement des policiers face à l'explosion de l'insécurité en France. C'est tout à fait logique. Pour ce qui est du taux d'élucidation des viols, Il y a beaucoup plus de viols en France, c'est objectif et c'est chiffré, mais il y a aussi le mouvement MeToo qui est passé par là, c'est-à-dire qu'il y a plus de dénonciations de viols. C'est tout à fait logique dans ce cas qu'il y ait moins de d'élucidation puisque les effectifs n'ont pas bougé et que tout le reste augmente également, la violence de rue, les cambriolages, tous les compteurs sautent au rouge écarlate et les effectifs n'ont pas bougé, donc c'est normal. Et la police est dépassée, la police est en burn-out. Moi, j'ai parlé avec un policier hier soir, qui pourtant était un jeune homme qui avait l'air assez robuste, et qui m'expliquait qu'il était en tel burn-out parce que depuis les gilets jaunes, ça ne s'arrête pas, les gilets jaunes, les émeutes, les retraites, l'insécurité, il faut qu'ils s'occupent des mineurs isolés qu'ils arrêtent par exemple et qui retrouvent le lendemain exactement au même endroit en train de dealer la même chose. Donc en fait ils sont débordés et c'est pas de les critiquer, de le dire, bien sûr qu'ils le sont, c'est tout à fait normal.
Perico Legas.
C'est pas rassurant parce que l'efficacité de la police est en même temps un élément dissuasif pour les gens qui commettent des délits. On leur dit vous ne passerez pas au travers, et surtout la police française qui a un excellent système d'investigation. Voilà, je savais pas que c'était quand même que 80%. Je pensais que c'était plus que ça.
Tu parles de quoi? De 80%
de l'élucidation des crimes. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même 20% de crimes, j'allais dire parfaits.
Ah, attention, un crime de 2017, on parle pas d'assassinat,
il n'y a pas de mort non élucidée.
Ah oui, là.
Enfin, ça veut dire en tout cas.
Quand il y a décès de la personne, enfin de la victime, les chiffres sont.
Oui, le paradoxe, c'est que vous savez que les homicides diminuent, le chiffre d'homicides diminue selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Par contre, les attentats à la personne, les incivilités, les agressions, elles sont en augmentation parce que. Alors il y a mille choses, la fracture sociale et tout ce qu'on peut expliquer. Pour autant, on voit bien que les services. Alors il y a peut-être une compétence politique en cause, mais il y a en tout cas structurellement des manques de moyens pour la police et des commissaires. Je pourrais en discuter. Ils en ont moins qu'autrefois. Alors il y a quelques affaires plus sensibles sur lesquelles on réalise quelquefois des miracles, des élucidations, même si c'est longtemps après des disparitions. La petite Estelle Mouzin finalement, vous voyez.
Il y a même un pôle.
Quand vous avez des gendarmeries ou des commissariats de police qui me disent des commandants de gendarmerie qui me disent notre photocopieuse est en panne depuis 3 mois, on va photocopier chez le boulanger ou chez le garagiste parce qu'on n'a plus ou le téléphone qui est en panne ou l'ampoule. C'est la preuve que là, il y a une carence de l'État. Et là, on aimerait que dans ce cas-là, le budget de l'État prenne bien en compte les priorités par rapport à d'autres et que l'argent qui, lui, est nécessaire à l'élucidation de ces dossiers soit consacré. Et en fait, il y a une dilapidation des fonds de l'État. Il y a un gaspillage. Ensuite, on peut mettre en cause les fonds donnés par l'Europe qu'on donne. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a évidemment, structurellement, un mauvais investissement des moyens financiers de l'État dans des secteurs comme la sécurité et la police qui mériteraient plus que ça.
Si je peux juste me permettre, Rémi, la police, elle est submergée en fait par la petite délinquance.
Par ailleurs,
c'est ça qui les empêche en fait de s'occuper du reste, des cambriolages, d'aller pousser loin dans les enquêtes de cambriolages qui prennent du temps parce qu'ils sont.
On expédie.
Voilà, on expédie parce qu'ils sont sur le terrain en train de gérer la petite délinquance qui, elle, a vraiment explosé. Et voilà pourquoi le taux s'effondre. Voilà.
Agression, cambriolage, vol non résolu. La police, la gendarmerie, sont-elles dépassées? Vous nous appelez au 32-16, comme le fait Mickaël. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Merci
salut
de nous rejoindre.
Salut Perico, salut tout le monde.
Merci bonjour, de Mickaël. Nous rejoindre dans Estelle Midi. Vous nous appelez depuis les Bouches du Rhône, c'est ça?
C'est ça.
Vous faites quoi dans la vie, Mickaël?
Alors moi, je suis commerçant primeur fruits et légumes et épicerie fine.
D'accord. Ok. Est-ce que vous avez le sentiment que la police est dépassée aujourd'hui?
Alors moi, oui. Moi, je pense qu'elle est dépassée. Après, comme j'expliquais aux standardistes, je pense pas qu'ils soient pas performants. Je pense qu'on a une bonne gendarmerie, qu'ils sont bien formés et qu'ils font bien leur travail. Mais je pense qu'ils sont tout simplement dépassés par le nombre d'incivilités aujourd'hui, de petites incivilités, je suis d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Et du coup, ils sont obligés de faire des choix, en fait, tout simplement. Parce que moi, je vois, on a beaucoup, beaucoup de vols, ça arrive très souvent, des vols, on a des caméras de surveillance, donc j'ai été régulièrement en gendarmerie, faire des dépôts de plainte pour des vols, tout ça, mais on se rend bien compte que quand moi je me pointe parce qu'on m'a volé 2 sacs de pommes de terre ou 3 pots de confiture, on se rend bien qu'on n'est pas... qu'on va pas être pris en priorité.
Vous êtes bien reçu.
Oui, ils nous reçoivent par politesse parce qu'ils sont obligés, mais on sent qu'on sait déjà qu'il n'y aura pas de suite.
Est-ce qu'on vous l'a déjà dit clairement, Mickaël?
Ah oui, moi on me l'a déjà dit. Je me suis déjà pas énervé, mais quelquefois j'ai amené quand même pas mal de des vidéos avec une fois, j'avais notamment, j'avais même la plaque d'immatriculation du véhicule quand ils sont repartis, j'avais pas mal de trucs, et puis bon, on se rend compte qu'on fait les dépôts, on fait...
C'est-à-dire, le gendarme, vous a dit
que voilà, qu'il y avait souvent, bon, ils sont obligés de faire des procédures, d'engager des procédures qui leur prennent beaucoup de temps et qui sont des fois coûteuses, et voilà, ils vous font comprendre que pour deux sacs de pommes de terre à 10 euros, ils peuvent pas mobiliser les moyens qu'ils ont. Voilà, c'est sûr qu'après, je veux bien le voir aussi. Voilà, après, à un moment donné, un peu le comprendre aussi. C'est vrai que tu. Voilà,
et ils n'ont jamais arrêté personne
armé. Non, vous non, jamais. Moi, d'ailleurs, là, honnêtement, c'est très, très rare. À l'époque, je le faisais régulièrement, et puis après, on baisse les bras. On a dû baisser les bras.
Il appelle même plus.
Vous allez même plus signaler.
Ah, moi j'y vais pas parce que je perds du temps. On a déjà pas beaucoup de temps en tant qu'entrepreneur. On a déjà.
Et comment vous le vivez, Michael? Parce que moi je le vis mal.
Après voilà, je c'est sûr que je trouve que c'est dommage. C'est très dommage. Je pense moi je pense que c'est vraiment les petites infractions et les petites incivilités aujourd'hui qui sont. Il y a un manque général. Enfin, c'est global, hein, je pense. Il y a un manque, voilà, que ce soit de savoir-vivre, comme de, voilà, quand on avait parlé, vous parlez souvent des émeutes, des machins, voilà. On le voit aujourd'hui, c'est un peu global, mais le problème, c'est que, voilà, les effectifs, ils n'ont pas évolué.
Et Michael, vous-même, vous n'êtes pas à aller peut-être, je sais pas, je vous pose la question, vous savez que certains commerçants ont décidé d'agir par eux-mêmes en affichant le visage de leur voleur régulier. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit?
Non, moi je le fais pas. Bon, de toute façon, si c'est voleur régulier, je l'attrape en général, finit par l'attraper moi. Mais
vous comprenez ceux qui font ça?
Oui, non, mais je veux bien le comprendre. Moi j'ai déjà vu ça dans des restaurants où ils affichent des gens qui sont partis sans payer et tout ça. Moi ça me choque pas parce que bon voilà, je veux dire après tout, c'est plutôt ceux qui n'ont pas payé.
Et quand vous attrapez un voleur, vous faites quoi?
Ah moi ben voilà, si je l'attrape sur le fait que j'ai la chance de me rendre compte, ou que. Il y a un de mes salariés qui me dit, Mika, lui, il a pris, voilà, c'est pas arrivé, c'était volé des top features, des matériaux. Bon, ben, on lui dit, bon, tu sors ça de suite et tu t'en vas, mais on peut rien faire, en vérité, bon, il nous le rend parce que, voilà, sur le moment, si.
Il est surpris,
C'est plus par politesse, parce que presque, il pourrait nous dire, non, je te le rends pas, tu as pas le droit de regarder sous ma veste, sous mon machin, il part, et en fait, nous, on resterait planté là, quoi. En vérité,
est-ce que, Michael, je vous pose une question. Michael, en tant que commerçant, je parle, parce que là, on parle des vols dans vos commerces, est-ce que vous vous sentez moins en sécurité aujourd'hui qu'hier?
Après, je parlerai pas de sécurité. Après, moi, bon, je vois, mais il m'est jamais arrivé de trucs vraiment, genre voilà un braquage ou un truc comme ça, pas à ce niveau-là. Là moi c'est souvent voilà, ben, comme je vous dis, des vols, ouais, des vols. Mais bon c'est vrai que c'est ça prend la tête parce que voilà c'est souvent ça et c'est très difficile déjà bon hein. Et la conjoncture, c'est quand même assez compliqué. Si en plus, il faut qu'on se mette à faire la police nous-mêmes.
C'est compliqué, et malheureusement, on l'entend, Michael.
Ça peut amener à dérailler. Voilà, moi, je comprends qu'il y en a qui déraillent, qu'ils fassent des choses qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai que quand on subit ça tous les jours et que c'est journalier, c'est fatigant. Je comprends qu'on puisse être amené après, des fois, à faire des choses que forcément on va regretter. Mais bon, sur le moment, il y a des jours et puis il y a des jours où ça passe et des jours où ça ne passe pas. Quoi.
Merci beaucoup, Michael, d'avoir été avec nous, témoignage. Extrêmement intéressant de Michael qui nous appelait depuis les Bouches-du-Rhône, il est commerçant. Paul, il y a également de nombreux témoignages, de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
Ce témoignage de Michael, il résonne avec beaucoup d'autres témoignages qu'on reçoit sur Direct Studio d'un autre Michael qui nous dit « Je me suis fait voler ma moto dans le Vieux-Nice devant une caméra ». Mais la moto n'a jamais été retrouvée. Autre message de Jérôme qui dit « Je me suis fait voler mon téléphone dans la poche le 21 février dernier. J'ai réussi à faire identifier la personne via des caméras de surveillance. Là aussi, la police sait qui est la personne. » Mais deux mois après, je n'ai toujours aucune nouvelle du suivi de ma plainte.
D'où le sentiment qui ressort de sentiment d'impunité de la part, enfin pour ceux qui commettent ces délits de la part de leurs victimes, qui ont l'impression qu'il y a une certaine impunité. Je te donne la parole dans un instant, Juliette, mais d'abord je veux accueillir Yann Bastière qui est avec nous. Bonjour Yann Bastière.
Bonjour à vous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes délégué national à l'investigation du syndicat de police Unité. Yann Bastière. Vous avez peut-être entendu le début de notre débat. À aucun moment, personne ici n'a remis en cause le travail, la volonté des forces de l'ordre. Je tiens à le préciser. Ni de la police, ni de la gendarmerie. Malgré tout, je vous pose la question. Est-ce que la gendarmerie, la police sont aujourd'hui dépassées?
Alors oui, bien sûr, je vous écoute depuis tout le début. J'ai bien tout noté, j'entends de tout. Et bien heureusement qu'on ne dit pas du mal des enquêteurs que je représente. Non. Est-ce qu'elle est dépassée? Elle fait son boulot avec les moyens qu'on lui donne. Ni plus, ni moins. Le taux d'élucidation, il est impacté par le nombre trop faible d'enquêteurs. Le ministre de l'Intérieur l'a même évoqué la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, devant une commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic. Il manquerait 5 000 OPJ. Je reprends ses mots.
5 000 officiers de police judiciaire.
Imaginez. Donc, le taux d'élucidation, ce sont les faits constatés et les faits élucidés. Et vous faites un ratio. Mais lorsque vous constatez beaucoup de faits, effectivement, des efforts ont été mis sur beaucoup plus de policiers sur la VP, le fameux « je veux du bleu ».
Sur la voie publique.
Exactement, VP, excusez-moi, les acronymes sont trop représentés.
Pas de souci, sur la voie publique.
Merci de me corriger. Sur la voie publique, ce sont les mots du président de la République en clôture du Beauvau. Oui, bien sûr, mais lorsque vous mettez beaucoup de policiers sur la voie publique, qui constatent les faits, qui interpellent, et lorsqu'à l'autre bout de l'entonnoir, il est toujours aussi petit, et ce sont les enquêteurs, vous pouvez pas élucider beaucoup de choses. Je vous parle de ça, je vous parle des moyens humains qui manquent. Je vais vous parler des moyens matériels. Nous travaillons sur un logiciel qui a été conçu au siècle dernier, mais je ne mens pas. Il a été conçu au XXe siècle, qui est complètement rétrograde. On attend ça, qui est de plus en plus lourd. On est sur une procédure pénale numérique, c'est-à-dire du zéro papier, qui ne fonctionne pas. On a une perte de temps. On l'estime à un dossier simple à plus 30%. Ramener ça en heures fonctionnaires. Vous voyez, je suis très mathématique parce que je m'appuie sur cet article du Figaro, mais c'est catastrophique.
Yann Bastière, je sais, vous allez me dire non, je sais que les policiers, les gendarmes font tout leur possible et qu'ils sont investis dans leur métier, parce que si on n'est pas investi dans ce métier, de toute façon, on tient pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de découragement pour les forces de l'ordre?
En partie, parce qu'il y a vraiment un item qui est absolument pas, qui rentre pas en ligne de compte dans tous ces calculs, c'est la motivation des agents. Lorsque vous leur mettez de plus en plus de charges administratives, de tableaux à remplir, de documents à scanner, c'est autant de temps perdu pour l'enquête, d'accord. Les collègues enquêteurs, je m'entretenais encore ce matin avec certains, qui disent on n'a pas de soum pour faire des enquêtes de stup. Vous entendez?
Ouais.
C'est une priorité nationale. Lorsque j'entendais tout à l'heure, effectivement, qu'une des priorités, parce que vous voyez, priorité nationale, on en a quelques-unes dans les services d'investigation. Et très naturellement, lorsqu'on parle des violences intrafamiliales, suite au drame de Mérignac en 2021, c'est devenu une priorité nationale.
Mais rappelez-nous, rappelez-nous Mérignac.
Non, c'était la jeune Chinaise qui avait été assassinée sur la voie publique ou en rentrant chez elle. Voilà, il y a eu des manquements côté police, côté justice. On a remis tout dans l'ordre avec des accueils plus précis, plus fins sur ce type de victimes, sur des collègues mieux formés. On a fait des efforts incroyables dans les services d'investigation. On croule sous ce type de dossier. À l'été 2021, c'était la priorité. On ne faisait plus que ça. On faisait baisser les stocks de dossiers sur ce champ infractionnel des vifs. Donc, je peux vous promettre que mes collègues enquêteurs font de leur mieux. Je leur tire mon chapeau tous les jours. Mais quand vous n'avez plus les moyens, ou que vous avez des charges indues qui viennent peser chaque jour un peu plus...
C'est désespérant.
Il y en a qui jettent l'éponge, et je vais vous parler d'un que je connais bien, c'est-à-dire moi. Et oui, en 2017, j'ai jeté l'éponge après 20 ans d'investigation, car je perdais tout sens à ma mission, et je l'entends tous les jours. Donc maintenant, je suis vraiment heureux de défendre leur cause et je vais la porter jusqu'au bout. Et je peux vous dire que le taux d'élucidation, il n'est pas prêt d'augmenter.
Yann Bastière, lorsque vous avez des rencontres avec les représentants du ministère de l'Intérieur, que vous dites, que vous nous dites là en ce moment même, qu'est-ce qu'on vous répond?
On hausse les épaules. Actuellement, depuis le début de l'année, un groupe de travail a été lancé par la Direction nationale de la police judiciaire autour de l'attractivité de la filière judiciaire. Nous sommes en train de travailler sur un tout petit thème, vous allez voir, les horaires de travail. Nous cherchons à changer le rythme de travail, et on parle de la semaine de 4 jours qui a été prônée et par le ministre de l'Intérieur et par le... Oui, c'est juste
et pour qu'on ait...
Et par le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Vous imaginez ce qu'on est en train de bouger comme pour redonner de l'espoir aux enquêteurs? Alors je rigole, mais c'est juste, je rigole pas, c'est juste que pour les victimes qui sont au bout, il faut redonner ces lettres de noblesse à cette filière. Voyez,
vous pensez qu'il y a une perte de confiance dans la population, non pas dans leurs forces de l'ordre, mais enfin, À terme, ça peut, voilà, ce sentiment d'impunité que ressentent certains délinquants et que ressentent pour les délinquants certaines victimes, ça vous inquiète ?
Mais bien sûr que ça m'inquiète parce qu'au même titre que vous, je suis un citoyen. Je suis amené à déposer plainte parce que ma voiture a été dégradée, parce que j'ai été victime d'un vol par effraction. Bien sûr que ça m'inquiète. J'ai vu des armoires entières dans Paris. Vous entendez bien, je l'ai vu de mes yeux en toute fin d'année dernière, remplies de dossiers qui n'ont jamais été touchés. Des dossiers de 2016. Il y a des victimes qui ont déposé plainte et leur dossier n'a jamais été touché.
Et j'imagine que ça, c'est pour un enquêteur comme vous l'avez été, c'est désespérant. Quoi.
C'est un crève-cœur. Lorsque je m'entretiens avec des collègues qui ont 500 dossiers dans leur armoire, mais ils me le disent franchement.
On parle de dossiers d'agression physique.
Je vous pose une dernière question, mais je vous demande juste de me répondre par oui ou par non. Je sais que ça, c'est difficile. Est-ce que la police, aujourd'hui, les forces de l'ordre en France sont sur le point de craquer ou pas?
Oui.
Voilà, c'est clair. Merci Yann Bastière d'avoir été avec nous. Yann Bastière, délégué national à l'investigation du syndicat de police Unité. Ça fait froid dans le dos, ce qu'on entend.
Ouais, ça fait froid dans le dos. Et puis moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces gendarmes et ces policiers qui sont nombreux à être en situation de souffrance. Souffrance mentale. Il y a beaucoup de suicides dans les forces de l'ordre.
Merci c'est important ce que tu viens de dire, Yael, et merci de l'avoir dit. Je voudrais qu'on retourne rapidement au 32-16. Rejoindre Christian. Bonjour Christian.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est à Bordeaux, c'est ça ?
Ouais, merci de me laisser la parole. Oui,
bah, c'est nous qui vous remercions de nous appeler. Christian, vous êtes commerçant vous-même ?
Oui, j'ai 5 boutiques dans la région. Et moi, j'ai vu un phénomène très marquant arriver. Quand on a vu tout ce qui s'est passé à la télé, entre guillemets, open bar, servez-vous, c'est le laxisme absolu. On peut prendre dans les commerces, en gros, on peut piller sans qu'il se passe rien, ou pas grand-chose. Moi, j'ai ressenti vraiment la différence après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous mes commerces, tous les jours, sans exagérer, c'est un ou deux vols.
Vous vendez quoi
Tout ce qui est un peu dédié à la déco, des vases, des bougies, tout ce qui est dédié à la décoration. Okay. Et ça, c'est flagrant. Et quand moi, je discute avec les policiers qui sont assez proches, et j'entendais le désarroi du monsieur juste avant, là, qui expliquait.
Yann Bastière.
On sent, si vous voulez, à demi-mot, parce qu'il ne peut pas le dire de la façon aussi explicite que je vais vous donner, mais qu'ils ne sont pas soutenus. C'est-à-dire qu'en gros, si j'interviens et que je fais une bavure, c'est moi, policier, qui aurai plus de problèmes que le voleur. Et ça, on le sent en France aujourd'hui arriver. Donc du coup, c'est open bar, allez-y, servez-vous. De toute façon, tu vas faire quoi? Et la provocation des gens qui vous volent, c'est de toute façon, tu vas faire quoi? Voilà. Et ça s'arrête
vous
là.
Vous avez des voleurs que vous surprenez qui vous disent ça?
Ouais, tu vas faire quoi? Vas-y, dis-moi ce que tu vas faire maintenant. Tu vas appeler, tant que tu vas appeler, je vais partir. Et puis sinon, je vais revenir, je vais tout casser. Oui, on est menacés et on les a en vidéo, on les a et on peut rien faire. Donc, si vous voulez, on est nous commerçants à la limite de la rupture, du mauvais geste, de la mauvaise parole.
C'est terrible ce qu'on entend avec Christian. Je suis désolé, Christian, je suis obligé.
Cauchemardesque.
Et c'était court, mais c'était important ce que nous a dit
Christian. Cauchemardesque.
Bah, ouais, c'est cauchemardesque parce qu'on a à la fois, on a les deux bouts de la chaîne. On a la police Yann Bastière qui nous dit qu'elle est sur le point de craquer. Et Christian qui est commerçant victime. Les victimes sont sur le point de craquer. Donc,
Tout le monde va craquer.
Ouais, c'est pas rassurant. On vous a posé la question, Paul, une consultation comme tous les jours. Agression, cambriolage, vol non résolu, la police, la gendarmerie sont-elles dépassées ?
Eh bien, le résultat est sans appel puisque vous répondez oui pour 91% d'entre vous.
Ben voilà. Ça reflète bien tout ce qu'on vient d'entendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16 pour ce débat. Dans un instant, on continue, bien sûr, Estelle Midi. C'est jusqu'à 15h sur RMC, RMC Story. Dans un instant, ce sera le zapping, le meilleur du jour sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Tout de suite, c'est le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
On commence avec les GG. Le déballage médiatique de l'affaire Kenji Girac vous choque-t-il ? Hier, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a déballé toute la vie du chanteur pendant une conférence de presse, notamment sur sa vie privée et sur ses addictions, ce qui a choqué la famille de Kenji Girac, mais également l'ancien policier DGG Bruno Pommard.
C'est une question de déontologie, je dirais, de la part de ce procureur. Je trouve qu'il a dépassé les bornes, comme on dit. Il aurait dû factuellement dire des éléments concernant cette enquête, ça c'est une chose. Revenir, comme l'a dit Olivier, sur l'arme. Il va falloir savoir d'où vient cette arme, ce qu'elle a pu faire en historique. Et ça va être une véritable question. Mais vraisemblablement, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Ce qui a l'air de l'intéresser, par contre, c'est d'étaler la vie privée de Kenji Girac. Tout le monde s'en fout.
Bah non.
Non.
Les trois jours que tout le monde.
Mais non, mais je m'en fous de la vie privée de.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on le dise publiquement.
Oui, qu'on le dise publiquement.
C'est une affaire privée.
Oui, mais donc ça ne regarde personne.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour faire court, voilà, la thèse aujourd'hui, c'est la tentative de suicide loupée parce que Kenji Girac était très fortement alcoolisé ce soir-là, qu'il était sous cocaïne également, qu'il se disputait régulièrement depuis quelque temps avec sa compagne, dont il a un enfant, et que il y aurait eu dispute, elle menaçait de le quitter, et pour bref, drame passionnel, j'allais dire, pour éviter qu'elle ne le quitte ou en tout cas qu'elle revienne vers lui.
Il aurait voulu semblant de se suicider. Bon. Il savait pas que
tout ce que
l'arme était chargée.
C'est vrai que ça a été exposé longuement par le procureur de la République.
Mais pas que.
Le procureur qui dit aussi que Kenji Girac précise que Soraya est la femme de sa vie. Enfin,
exactement.
C'était surprenant.
En fait, il y a eu un déballage. Le procureur s'est cru sur closer.fr sans se préoccuper de l'impact que ça aurait pu avoir sur les proches de Kenji, sur Kenji lui-même, qui certes a eu un accident. L'enquête le dira, mais a quand même tout de même le droit de garder certaines parties de sa vie privée. Mais c'est un phénomène qu'on observe souvent dans ce genre d'affaires médiatiques, d'avoir des procureurs ou des juges qui se retrouvent mis sur le devant de la scène et en pleine lumière, et ça donne lieu parfois à des dérapages ou à certains manquements. On l'a vu pour l'affaire Outreau, on l'a fait pour l'affaire du petit Grégory. Cette mise en lumière soudain de ces magistrats ou de ces personnes de la loi qui les fait un peu péter un plomb, en fait.
Yael, t'as pas l'air d'accord.
Non, du tout. Ce ne sont plus des éléments privés. Ce sont des éléments qui viennent contextualiser cet acte violent. C'est un acte violent. Si on rajoute à cela qu'il semblerait que ce soit un chantage qui a été fait à sa compagne, on est vraiment dans de la violence psychologique. On rajoute à cela, parce qu'on a de plus en plus d'éléments qui sont portés à notre connaissance, où apparemment il était dit dans le camp que la femme de cet individu était trop féministe et qu'elle avait manifesté la volonté de le quitter. On s'inscrit vraiment dans un...
À l'égard de la communauté...
On s'inscrit vraiment dans une situation de violence où le conjoint ne supporte pas d'être dépossédé de sa chose.
Est-ce qu'on a besoin de savoir, nous?
Oui, puisque il y a eu un acte qui, au départ, était problématique. Enfin, on n'en connaissait pas l'origine. Donc, le procureur a fait une conférence pour donner toute la lumière.
Dans ce cas-là, on peut faire un peu plus bref. Voilà, c'est une affaire.
Il aurait pu dire, on s'oriente vers une piste d'une tentative de suicide
raté.
Volontaire.
Sans donner la couleur du siège.
Volontaire ou non. Et puis, en tout cas, il n'y a eu à aucun moment intervention d'un tiers.
Voilà. Oui, retracer toute l'histoire d'amour de Kenji et sa compagne, c'est beaucoup trop.
Le procureur a commis cette erreur de vouloir répondre à cette couverture médiatique absolument.
Oui, voilà. Il aurait pu être plus bref, plus succinct.
Incroyablement démesuré, qui a eu. Enfin, je veux dire, moi, j'en ai absolument rien à faire dans l'absolu de ce fait divers. Hein, voilà. Mais il y a une couverture médiatique telle que peut-être que le procureur s'est accru. Obligé
de
dire
répondre.
Je vais prendre beaucoup de recul sur des grands principes, j'allais dire légaux de notre système de droit. C'est une affaire effectivement. Alors elle n'est pas criminelle, mais c'est une affaire de. Il y a usage d'armes à feu. On est dans une procédure. On est dans une forme d'instruction. Tout d'abord, le secret de l'instruction. Peut-être qu'une fois que l'affaire est terminée, il peut écrire un livre. Mais le principe de la conférence de presse. En plein milieu de l'affaire, en révélant. Donc je te dis que le principe de la conférence de presse est. Alors Monsieur Molins, je me souviens avec son petit accent méridional qui nous expliquait la suite des attentats. D'accord, ça concernait l'opinion publique puisque c'était un fait terroriste.
Quand même, oui.
D'accord, mais là c'est une affaire strictement privée. On est dans la presse de ringot, de la part d'un magistrat. C'est même pas, voilà, c'est le parquet. C'est, donc, s'il représente le ministère de la Justice, de donner ce point de détail, quelle que soit l'affaire, ça aurait été un cheminot de Valenciennes qui se serait tiré accidentellement, ou un charcutier de Valence, il y aurait rien eu. Péricole, il savait que c'est un personnage.
Alors, comment t'expliques que depuis 48 heures, on en entend parler non-stop?
Je te dis que ce n'est pas normal.
Voilà, parce qu'on a affaire à une personnalité publique.
D'accord, mais que les médias veuillent faire de l'audience avec un fait d'actualité.
C'est pas parce que j'ai dit ce que j'ai dit et que je trouve que le procureur a dû faire preuve d'un peu plus de réserve et de discrétion que j'étais pas devant la conférence de presse comme tout le monde à regarder parce que j'avais envie de savoir. C'est une critique objective.
Pourquoi une conférence de presse avec un magistrat?
Parce qu'on a affaire à une personnalité publique.
Mais voilà. Non, mais ça justifie pas en termes de droit, enfin.
Absurde. Les GG, l'école Sciences Po est-elle à la dérive? On l'évoquait un peu tout à l'heure.
Ah oui.
Alors qu'elle fait face à une crise de direction, la prestigieuse école publique Sciences Po, créée en 1872, est actuellement occupée, bloquée par des manifestants pro-palestiniens. Mais pour la coach de vie des GG, Joëlle Dagosséry, ce blocage au sein d'une école est inacceptable.
L'école, c'est pour apprendre. Voilà, moi j'aime bien quand un lieu est dédié à quelque chose de très clair, c'est pour apprendre. À partir du moment où vous bloquez un lieu et que vous bloquez sa destination, enfin ce pourquoi ce lieu est fait, alors je suis désolée, vous devez sortir. Moi j'ai bien conscience qu'une école supérieure, une fac ou Sciences Po, c'est une école où aussi on apprend à apprendre, mais aussi on apprend à penser, on apprend aussi à débattre, etc. Donc c'est important que ce soit aussi des lieux où on puisse échanger. Et ça c'est normal. Par contre, ça n'a aucun... Voilà, il est hors de question que ce soit un lieu qui soit bloqué. Puisque là, il n'y a plus d'échange. Si tu bloques cette école, c'est que tu refuses le débat, tu refuses l'échange.
Bien sûr.
Donc, dehors.
Enrico Legas.
Il y a l'actualité sur le conflit au Proche-Orient. Ça fait 20 ans que Sciences Po est devenu un repère idéologique, gauchiste. C'est-à-dire que, et c'est vrai dans toute éducation, les élèves ont décidé qu'ils rentraient dans l'acte. Ils sont amenés un jour à prendre des décisions politiques, à gouverner le pays, à prendre des responsabilités publiques. Et les gamins se disent, je vais tout de suite commencer mon rôle. Et donc, on est dans le débat politique, on s'invective.
Attends qu'ils envahissent pas la Sorbonne ou qu'ils aillent pas dans la rue, là, ce n'est pas les CRS, ça va. Heureusement que ça n'est jamais arrivé.
Non, mais en 68, on envahit la Sorbonne, et puis une fois qu'elle est évacuée parce que le conflit est terminé, on reprend. Là, c'est devenu un foyer de propagande gauchiste.
Ça durait un mois.
Mais c'est ce que je te dis. Il s'agit d'école des sciences politiques. Donc voilà. Donc je n'en veux pas du tout aux gamins qui sont irresponsables et un peu crétins d'ailleurs, pour certains, même s'ils parlent très bien à la télévision. J'en veux au pouvoir public, au ministre de l'Intérieur, l'Éducation nationale, au gouvernement, qui devrait arrêter ça tout de suite. Éventuellement, on ferme l'école pendant 3 mois, on met tout à zéro, et voilà. Ou on la déplace ailleurs, et on reprend tout à zéro.
Ça a toujours été les mobilisations politiques
donc,
dans les
Donc ça veut dire que l'État ne fait pas son boulot. Il y a des pays où il y a des écoles de sciences politiques. Je peux te dire, ça ne se passe pas comme ça, à la moindre dérive, on arrête. Mais en France, comme on considère, ça fait partie du débat idéologique, que c'est la liberté, que c'est la démocratie, on laisse des gens qui sont là pour apprendre, foutre la merde dans leur université et empêcher les autres de travailler. Je peux te dire que dans d'autres pays démocratiques, ça serait vite réglé. On a vraiment ici affaire à des couilles molles.
En fait, la différence, c'est que le milieu universitaire a toujours effectivement été un milieu de débat, d'hormones de jeunes politisés,
mais
quoi. Ils sont au début de leur vie politisée et qui ont envie de s'exprimer. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une dérive de ça. Cette dérive, elle est dans la violence, en fait. Parce que, ces blocages-là, ce sont pas simplement des blocages. C'est des jeunes qui sont prêts à en découdre et qui sont prêts à faire office de pression et de violence sur ceux qui pensent l'inverse d'eux et sur ceux par exemple qui eux soutiendraient Israël. Je peux vous assurer que le débat ne sera pas cordial et que il ne l'est pas et que il y a des gens à Sciences Po qui actuellement rasent les murs parce qu'ils veulent pas de problème avec ces meutes qui se trouvent devant l'école. Et on a vu avec beaucoup de choses qui sont comme ça. Et il y a aussi un autre problème, c'est que parmi ces gens-là qui bloquent, il y a effectivement des discours extrémistes qui font l'apologie du Hamas. Ce n'est pas l'entièreté du discours pro-Palestine, je le dis, mais pour ces gens-là, je peux vous le dire, c'est des gens qui sont pro-Hamas, qui pour certains font l'apologie du terrorisme et des actes du 7 octobre, ou alors qui ont carrément oublié que le 7 octobre a eu lieu, et donc c'est là que j'ai un problème.
Comme il y a pu avoir un problème dans certaines universités françaises, notamment avec des syndicats d'extrême droite comme le GUD.
Ah bah évidemment, moi je soutiens pas le GUD, hein. Vous êtes
non mais je précise.
Enfin, je n'ai rien à voir avec le GUD en fait, donc.
J'ai jamais dit ça.
Oui, tout à fait.
J'ai dit au débat tout à l'heure.
Il y a l'illégal et il y a pas et il y a la liberté d'expression. Donc je la prône pour tout le monde et après il y a dépasser la limite du légal.
Ça, voilà.
Donc l'apologie du terrorisme.
D'accord.
Voilà.
On avait fait ça. Oui.
Justement là on est bien au-delà de la à la fois de la liberté d'expression et d'un engagement politique qui est tout à fait, enfin je veux dire, qui est même sain. Pour des jeunes de l'avoir. Là, on est aujourd'hui, en tous les cas cet après-midi, à ce que Rima Hassan appelle au soulèvement. C'est quand même voilà, on a quand même passé un cap. On est à une incitation.
C'est pas nouveau. Non mais Jean-Luc Mélenchon qui lors de la campagne présidentielle dernière en 2022, qui appelait les Français à marcher sur Paris, non pas à prendre les armes, mais bon, il appelait. Enfin, il avait quand même.
Voilà, soulèvement, c'est tuer les Juifs.
Il faut quand même savoir qu'à Sciences Po aujourd'hui participe à cette espèce de sitting là, un groupe qui est pro-Hamas. Dire que c'est pas un qui s'appelle Urgence Palestine.
Urgence Palestine.
D'accord. Dire c'est pas un groupe qui est pour la paix. Ouais. C'est pas un groupe qui est pour la solution à deux États. D'accord. C'est un groupe qui soutient une organisation terroriste, le Hamas, qui a été à l'origine du pogrom le plus sanglant contre les Juifs depuis la Shoah. Donc, si vous voulez, on en est à un stade où on est à l'incitation, en fait, à la haine et au soutien à des organisations terroristes.
Oui, je tiens juste à préciser, c'est ton interprétation, Yael. Le comité Palestine de Sciences Po a fait un communiqué de presse ce matin. Je dis ce qui est exactement ce que disent. Le comité réclame notamment la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et la fin des collaborations avec toutes les institutions ou entités jugées complices de l'oppression systémique du peuple palestinien. Voilà ce que dit ce comité.
Mais ils sont fous, mais Sciences Po n'a pas fait. D'accord, mais ils sont fous, Sciences Po n'a pas fait de déclaration.
Et donc, ils ne demandent pas la libération des otages, par exemple.
Et puis Total et la SNCF aussi pendant qu'on y est. Voilà, et puis la sécurité sociale.
Charles Matin, constatez-vous une baisse des prix dans les supermarchés? Fini les hausses démesurées des prix des produits de consommation courante, puisque l'inflation en France s'est actuellement stabilisée à 2%, et donc on constate même des baisses importantes sur certaines catégories, comme nous le dévoilait ce matin Emmanuel Le Chypre. Écoutez bien.
Oui, sur un an, les prix des produits de grande consommation et des produits frais en libre-service ne sont plus en hausse que de 0,5% en avril 2024 par rapport à avril 2023. C'est ce que nous dit le baromètre LSA Circana. Et les baisses les plus spectaculaires sont enregistrées sur les produits d'entretien et surtout sur le rayon hygiène-beauté. Moins 6% sur un an sur tout ce qui est soins du corps, soins du visage ou après-shampoing. On voit là sans doute les premiers effets de l'encadrement des promotions imposé par la loi d'Escrozaille qui est entrée en vigueur le 1er mars. Le but, c'était de redonner de l'air aux industriels pour leur permettre de pratiquer des prix plus bas toute l'année. Eh bien, ça semble fonctionner.
Perico, est-ce que tu l'as constaté? Je ne sais pas si tu fais les courses.
Oui, alors, comme on constate, une fois que l'incendie est terminé, la maison est brûlée. Oh, il n'y a plus de flammes. Ben oui, évidemment, tout a brûlé. L'incendie est éteint. Ben oui, tout a brûlé. Donc, ça, les prix. Non, mais c'est extraordinaire. La palisse et le roi est nu. Effectivement, les prix. Ça y est, ils sont augmentés. Ah, ça s'est arrêté. Bah oui, mais puis d'abord, c'est pas tout à fait vrai.
C'est même plus nuancé que ça. C'est que les prix augmentent moins vite.
Voilà.
Et qu'il y a certains produits
qui baissent.
Légèrement. Voilà, peut-être légèrement, mais ils sont arrivés à quel niveau?
Leclerc va nous dire qu'il nous fait gagner de l'argent. Les baisses sont baissées, vous gagnez de l'argent grâce à moi. C'est ce qu'ils vont nous dire, les grands distributeurs.
Allez, on termine avec Apolline Matin. Pour ou contre des cabines à bisous dans les trains? C'est très sérieux. C'est ce que vient de lancer la compagnie allemande ICE.
On n'est pas le 1er avril.
Dans ses TGV. Désormais, si vous voyagez en Allemagne, vous pourrez avoir accès à des cabines intimes permettant d'y faire, entre autres, des bisous. Ce n'est pas une blague. Et c'est Martin Bourdin qui nous en parlait ce matin sur RMC.
Un train qui sera équipé de Knutsch Abteil. C'est plus poétique en français puisque ça veut dire cabine à bisous.
Cabine à bisous.
Eh oui, des cabines à bisous, des espaces de 2 mètres de longueur, 70 cm de largeur qui permettra aux passagers de passer des moments en toute intimité. Voilà la promesse des cabines pour deux personnes assises face à face. Un comportement presque normal finalement. Avec un petit détail près, un petit bouton sur l'accoudoir qui permettra de rendre complètement opaque la vitre transparente et donc vous offrir un espace complètement intime, tranquille. C'est la fameuse cabine à bisous, donc à l'opposé des carrés familles qu'on peut connaître dans le TGV.
C'est clair, c'est pas tout à fait la même ambiance.
C'est pas la même philosophie. Peut-être que l'occasion aussi de faire passer les voyages un peu plus vite.
Je veux te voyer tapoter à l'instant sur ton portable, Perico Legas. Es-tu déjà en train de réserver un billet?
J'ai loué le wagon en entier.
Et il m'a gentiment invité.
Vous faites ce que vous voulez.
Il faut bien tester. Il faut des cobayes. Bon, ça s'appelle un bordel sur rail. Hein. c'est un bordel roulant. Vous imaginez,
ça, c'est un bordel.
Surprenant,
non, mais on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait bien déraper, quoi.
Parce que la mafia, une mafia des pays de, comme ça, de pas loin, va louer le, voilà, puis il y aura des
Ah ouais. Ah, mais c'est la suite, hein, certainement. Non, mais
à titre
personnel, moi, je me dis, sincèrement.
Ou alors, on sourit, mais bon.
Sans m'imaginer, d'aller trop loin, mais si vous me donnez la possibilité d'avoir 4 heures de train et je suis avec mon chéri, il me dit on peut avoir notre petit truc, notre petit enclos à nous.
C'est plus sympa que le carré avec les enfants que tu connais pas en face, oui.
Voilà, bah, je me dis oui, mais je veux dire, ils se mettent en danger. En vrai, moi, je les laisse tester, hein, mais à mon avis, il va y avoir vite des dérapages. Enfin, je pense que c'est
un billet ou pas.
Ah non, moi je prends pas de billets. Non.
Pourquoi?
Oh, bah attends, ça va, on n'est pas obligé de. On peut rester obligé, pendant 4 heures, mais ou 2 heures, ou 3 heures sans se bécoter, ou sans.
Bah non.
En même temps, c'est avec l'âge aussi.
Ils vont pas faire des zipampans quand même dans le train.
Notre réalisateur me fait une très bonne blague dans l'oreille en me disant ça va sûrement dérailler.
Je crois qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup de
dans un instant. Ça s'appelle Bundesband.
S'engage avec vous et on va s'engager avec des habitants de Drancy. Bah, ils ont pas de bol, ils sont voisins d'une déchetterie, mais la déchetterie, elle a rien à faire là en fait. Ça tombe mal. On va essayer de résoudre leur problème, évidemment. RMC s'engage avec vous dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, et Guillemette Franquet nous a rejoint.
Estelle Midi,
RMC s'engage avec vous.
Salut Guillemette.
Salut Rémi.
Aujourd'hui, on va tenter d'aider une nouvelle fois des habitants de Drancy, en Seine-Saint-Denis, je le disais juste avant. Ils sont voisins d'une entreprise de BTP, mais l'entreprise, à la base, j'y arrive, elle n'a rien à faire à cet endroit.
Exactement, c'est une déchetterie industrielle qui s'est installée sous leur fenêtre depuis 2 ans, et ce, en toute illégalité. En fait, cette entreprise... C'est vrai que c'est un peu étonnant. Moi, je vais vous raconter ça. Mmh. Elle traite, cette entreprise, des déchets du BTP, notamment des blocs de béton qu'elle va réduire en poussière. Dinka nous a contactés, et elle habite juste en face.
Dinka.
Le matin, à 5h, ces camions, ils les mettent en route, mais ces camions, ils font tellement de bruit. Je ne peux plus. La poussière, c'est horrible. Ça bouge chez moi, ça vibre. Nos maisons sont fissurées. Je deviens folle.
En juillet dernier, l'entreprise nous avait promis qu'elle était à la recherche active d'un nouveau site. Promesse non tenue. Donc, il y a une dizaine de jours, les habitants se sont mobilisés devant le site pour demander à nouveau sa fermeture. D'autant que, et c'est ce qu'on se disait en préambule, Rémi, cette entreprise n'a rien à faire là. La préfecture nous le confirme. Ses activités ne sont pas conformes au plan local d'urbanisme, le fameux PLU, qui n'autorise ici que des activités artisanales et non industrielles.
Donc la présence de l'entreprise, elle est illégale. Pourquoi elle est toujours là?
Parce que la préfecture n'a pas le pouvoir de l'expulser, nous dit-on. Ah bon ? Selon nos informations, un courrier officiel est parti le mois dernier pour demander là aussi à l'entreprise de quitter les lieux. La préfecture a aussi la possibilité de suspendre l'activité de cette déchetterie. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Pas de réponse par contre sur ce point.
Bon, on a quand même deux bonnes nouvelles pour ces riverains.
La préfecture, toujours elle, s'est engagée auprès de nous à maintenir la pression sur l'exploitant. Ouais. Deux nouveaux tests acoustiques vont être réalisés pour évaluer les nuisances sonores. Et ça, c'est important hein, parce que l'entreprise nous dit régulièrement que les tests acoustiques montrent que ça ne fait pas beaucoup de bruit.
D'un point de vue judiciaire, si on va plus loin...
C'est très important. Et à l'inverse, les habitants disent oui, mais ils font les tests acoustiques, l'entreprise sait qu'ils viennent et quand ils font les tests acoustiques, ils baissent le volume sonore.
D'accord.
Donc c'est très important, ces nouveaux tests acoustiques, premièrement. Puis on a aussi contacté évidemment la mairie de Drancy. Là, on nous répond qu'un procès verbal d'infraction a été transmis en janvier 2023 au procureur de Bobigny, sans que des poursuites ne soient engagées à ce stade.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?
Alors, nous, on a évidemment à nouveau contacté l'entreprise. Mmh. Nos mobilisations devraient bientôt payer, parce que la direction nous assure qu'un déménagement est programmé fin juillet. Engagement qu'elle a pris aussi l'entreprise auprès de la mairie. Et si elle ne tient pas sa promesse, d'ici la fin de l'été, le propriétaire s'est engagé à l'expulser. Je vous le promets, on y veillera. Mmh. Et d'ici là, l'entreprise promet de refuser les gros blocs de béton à concasser. Là aussi, pour limiter les nuisances sonores.
Merci Guillemette Perico, je vois que t'étais.
Ah, c'est quand même une tragédie. Mais... voilà, la dame là, non, mais attendez.
Imagine... c'est atroce.
C'est vrai que c'est une situation.
Non, mais du jour au lendemain, j'allais tu te retrouves avec une déchetterie industrielle en bas de chez toi. Et en plus, c'est totalement illégal.
Oui, mais ils vont déménager cet été, Rémi, tout va bien.
Ouais, on espère. En tout cas, ça, je le sais parce que Guillemette, je vous connais, RMC s'engage avec vous. Tu vas suivre le dossier, on va suivre le dossier.
Absolument.
Et on reviendra dessus. Tiens, si on veut contacter RMC s'engage avec vous, on fait comment?
On nous envoie un mail à rmcavecvous@rmc.fr.
Merci beaucoup, Guillemette. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi. Guillemette, c'est un prénom original.
Tout à fait.
Très joli prénom.
Merci.
Franquet.
C'est français, hein, non, on peut le dire.
Bien, Franquet.
Ça va, c'est
Est-ce
pas mal.
Est-ce qu'un jour, c'était venu à l'esprit de changer de prénom ou de nom?
Alors moi, si j'avais dû le faire, ça aurait été pour récupérer le nom jeune fille de ma grand-mère qui est perdue parce qu'elle n'a pas de petit frère.
Ah, ouais.
Donc moi, je l'aurais fait, mais pour des raisons familiales.
Tu pourrais toujours le faire.
Ma petite sœur va peut-être le faire.
Parce que...
c'est privé, cher monsieur. Je ne vous répondrai pas.
C'est privé, c'est joli comme nom. Dans un instant, on va parler de ça parce qu'il y a une loi, tu le sais, qui est passée il y a 2 ans.
Tout à fait.
Qui a considérablement simplifié les procédures. Il suffit d'aller devant la mairie pour changer de nom ou de prénom. Alors, on ne peut pas le faire 36 fois dans sa vie, on le fait une fois. Mais en tout cas, ça a apparemment tenté un certain nombre de personnes. Près de 150 000 personnes ont changé de nom ou de prénom depuis 2 ans. Est-ce que vous les comprenez? Bien, vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.